La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Cap vers les États-Unis.
Oui, lorsqu'encore adolescent, étudiant à l'université du Delaware, il avait rencontré les parents de sa future épouse. La mère de celle-ci lui avait demandé ce qu'il comptait faire pour gagner sa vie. Président, lui avait-il alors répondu, avant de préciser, président des États-Unis. Chez lui, l'idée de devenir président a toujours résonné comme une vocation et c'est la raison pour laquelle, estime The New Yorker, pour Joe Biden, la décision de renoncer à la dernière chance qui lui restait d'occuper le poste dont il a toujours rêvé a dû être particulièrement difficile, plus difficile que pour n'importe quel autre politicien. Alors pourquoi avoir décidé d'abandonner ? Biden, poursuit le journal new-yorkais, a fait un choix rare en politique, celui de la dignité plutôt que de l'ambition. Personne d'ailleurs n'ignorait les arguments avancés contre sa candidature. Le deuil de son fils, tout d'abord, Biden lui-même a expliqué qu'il ne se sentait pas prêt à mener une campagne éprouvante dans de telles circonstances douloureuses pour lui et pour sa famille. Les chiffres ensuite ne plaidaient pas franchement sa faveur. Le dernier sondage pour le Washington Post publié mardi le créditait de 16% seulement d'opinion favorable contre 54% pour Hillary Clinton et 23% pour Bernie Sanders. Le timing paraissait également de plus en plus compliqué avec seulement 3 mois avant les premières primaires, soit peu de temps pour lever des fonds, note le site Politico. Enfin, dernier argument relevé par le magazine Slate, les statistiques sur les vice-présidents qui par le passé ont choisi de se lancer dans la course à la présidentielle ne plaidaient pas non plus pour sa candidature. Un graphique publié récemment par The Economist montre que sur les 7 vice-présidents en exercice qui ont décidé de tenter leur chance, seuls 4 ont été effectivement élus, sauf que sur ces 4-là, 3 l'ont été au 19e siècle, ce qui signifie que George Bush Senior a été le seul vice-président en exercice à avoir été élu président depuis Martin Van Buren en 1836. Quoi qu'il en soit, en se retirant ainsi de la course à la Maison Blanche, Biden donne un sacré coup de pouce à Hillary Clinton, écrit pour sa part The Los Angeles Times. Quand bien même elle restait la favorite depuis des mois, Joe Biden se présentait lui comme l'allié le plus loyal de Barack Obama. Contrairement à Hillary Clinton, laquelle a marqué publiquement sa différence sur plusieurs dossiers, Biden avait mis en valeur son allégeance totale à l'homme qu'il avait repêché des primaires de 2008 pour en faire son colistier puis son vice-président. Le renoncement de Biden enlève donc un obstacle non négligeable à Clinton dans la course à l'investiture, enchérit le correspondant du Temps de Genève. Une bonne nouvelle pour la candidate et surtout une épine dans le pied en moins pour celle qui depuis 8 mois maintenant n'arrive pas à se dépêtrer de l'affaire dite des emails. Et que dire encore de l'enquête parlementaire sur l'attaque contre le consulat américain à Benghazi en Libye en 2012, attaque ayant entraîné la mort de 4 Américains dont l'ambassadeur. Ces investigations ont mis la démocrate à l'époque des faits secrétaire d'État sur la sellette. Or aujourd'hui, très précisément, se tiendra un rendez-vous majeur pour la politique étrangère récente des États-Unis et la présidentielle américaine de 2016, note le site GQ, l'audition d'Hillary Clinton par la commission d'enquête sur ces événements de Benghazi.
Et puis l'autre événement à la une de la presse internationale, Thomas, ce matin, c'est la visite spectaculaire de Bachar al-Assad à Moscou.
Une visite organisée mardi soir dans le plus grand secret qui n'a été révélée qu'après le départ de Bachar al-Assad du Kremlin. Alors le vrai contenu de la rencontre à Moscou ne sera connu en réalité que dans les prochains jours lorsque Bachar al-Assad s'adressera au monde, écrit le quotidien Commerçant cité par le Courrier international. Pour l'instant, les déclarations ont été limitées. Les présidents russes et syriens ont discuté des mesures pour lutter contre les groupes terroristes et extrémistes ainsi que des questions relatives à la poursuite des opérations militaires russes en soutien à des actions offensives des forces armées syriennes, rapporte pour sa part le site Izvestia. Difficile en revanche d'en savoir davantage concernant notamment l'avenir de Bachar al-Assad en tant que chef de l'État syrien. Le porte-parole du Kremlin n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes déplore le journal en ligne ILNT. Mais d'ores et déjà, beaucoup d'observateurs estiment que si le président syrien a été prié de se rendre à Moscou, c'est pour trouver un mécanisme permettant le démarrage d'un processus de règlement politique s'achevant par le départ de Bachar el-Assad tout en préservant le régime. Toutes les parties du conflit admettent aujourd'hui que l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie sont désormais une utopie, peut-on lire encore dans les colonnes du Temps. En clair, il s'agit désormais de rechercher un compromis acceptable par tous les pays. Et même si l'intervention militaire russe a contraint les capitales occidentales à ravaler leur volonté d'éliminer un président considéré comme le principal responsable du chaos, les Russes n'en demeurent pas moins réalistes. Ils savent que Bachar al-Assad ne peut pas tenir venir, sauf que Poutine a une peur paranoïaque des changements de régime opérés de l'étranger, ce qui s'est selon lui produit en Ukraine. Voilà pourquoi le chef du Kremlin veut un processus politique qui ne soit pas contrôlé exclusivement par les Occidentaux. Et pourquoi ? Réponse d'un diplomate interrogé dans les colonnes du journal. Parce que l'une des ambitions de Moscou aujourd'hui est de devenir le leader du pôle des pays non alignés sur l'Occident.
Merci Thomas Cluzel.